Géopolitique.
Corinne Manjou.
Géopolitique, le débat sur la situation en Syrie. Nous retrouvons nos invités. Alain Chouet, ancien chef de service du renseignement et de la sécurité de la DGSE, auteur de nombreux ouvrages sur l'islam et le terrorisme et qui a notamment travaillé à Damas et à Beyrouth. Il est au téléphone à Nîmes. Et Xavier Guillou, expert en gestion des risques et pilotage des crises, spécialiste du Moyen et du Proche-Orient, qui est lui au téléphone en Bretagne. Alors, à la fin de la première partie, nous parlions de la crise en Syrie et de la crise en Libye. Est-ce que la situation en Syrie peut être comparée à la situation en Libye, Alain Chouet ?
Non, je pense pas du tout. En Libye, on avait vraiment la dictature d'un homme et des quelques membres de sa famille dans un pays peu peuplé, peu technologique, doté de beaucoup d'armes mais incapable de s'en servir. Et donc une famille qui exploitait ce pays depuis 40 ans, même si elle avait organisé une assez vaste redistribution des richesses. En Syrie, on a une société beaucoup plus complexe, une armée qui est dont une partie relativement fiable, voire totalement fiable pour le pouvoir parce qu'elle est issue de sa propre communauté et avec des enjeux qui sont absolument pas les mêmes, avec une nation qui existait alors que la nation libyenne, il n'y a jamais eu une nation libyenne, il y a des provinces libyennes, il y a des villes libyennes, mais il n'y a pas une nation libyenne alors qu'il y avait une nation syrienne. J'étais très frappé récemment par les propos d'un épicier d'Alep à qui on disait « mais enfin, votre gouvernant est un tyran, vous vivez dans une tyrannie » et le type répondait « oui, mais c'est notre tyrannie à nous ». Alors au-delà de l'anecdote, ça démontre qu'il y a en Syrie un véritable sentiment national qui n'existait pas en Libye et les situations sont absolument pas comparables. Elles sont pas comparables non plus par leur environnement proche ou leur environnement international.
Xavier Guillou.
En plus de ça, j'ajouterais que Damas a une dimension emblématique. Aussi bien pour l'ensemble du monde arabo-musulman que sur le plan historique. Donc on est sur autre chose. Hein. On n'est pas. Damas est une des plus vieilles villes du monde, 10 000 ans avant Jésus-Christ. Elle a été au cœur de tout un tas de grands moments historiques, hein, y compris pour le monde musulman. Il hein. Faut se rappeler quand même la dynastie des Omeyyades et autres. Donc je crois qu'on ne peut pas comparer, on ne peut pas mettre sur le même niveau la Libye et la Syrie. Ce que je crains, c'est que ceux qui planifient aujourd'hui un certain nombre d'opérations pour instrumentaliser l'humanitaire en vue de faire des opérations politico-militaires sur la zone soient dans les mêmes... engagés dans les mêmes types de démarches que ce qu'on a pu connaître dans les Balkans ou sur la Libye ou autre. C'est-à-dire qu'on a une espèce de processus, comme on connaît au niveau de l'OTAN ou ailleurs, où on fait fi, je dirais, un petit peu de ces subtilités culturelles ou civilisationnelles sur le terrain.
Alors, pour la première fois, l'ONU reconnaît officiellement son échec et dit son impuissance à agir en Syrie. Est-ce qu'on n'est pas là face à la question même de la crédibilité et j'allais dire de la légitimité de ce qu'on appelle la communauté internationale aujourd'hui ? Alain Chouet.
Oui, la crédibilité de l'ONU, il y a bien longtemps qu'elle a été mise en doute, hein, y compris par le général de Gaulle qui l'avait traité de machin. Bien sûr qu'elle est mise en échec, mais on a tout fait pour cela. Xavier Guillou évoquait tout à l'heure les débordements de la résolution sur la Libye qui avait été décidée à des fins purement humanitaires et qui s'est transformée en une expédition militaire avec lynchage du dictateur et dépassement très large de tous les mandats qui avaient été donnés. Dans le cas de la Syrie actuelle, si Kofi Annan jette l'éponge, mais pour autant que j'en sache, que j'ai suivi un peu cette affaire, il a essentiellement buté, même si on ne l'a pas trop dit, sur le fait que lui souhaitait inclure l'Iran dans un processus éventuel de négociation et qu'il y a eu un veto absolu des Occidentaux dans cette affaire. Or, on voit effectivement mal comment on pourrait avancer sur cette crise du Proche-Orient si on n'y associe pas l'un des plus importants acteurs de la région. Hein, on voulait bien de la Turquie, de l'Arabie, du Qatar et de je ne sais quoi, mais pas de l'Iran. Et finalement, bon, il n'y a pas eu que ça, effectivement, dans l'échec de Kofi Annan, mais ça a été un élément important de son échec. Et je crains d'ailleurs que l'Artar Brahimi soit confronté à peu près au même problème dans sa mission.
Il a déclaré, l'Artar Brahimi a déclaré qu'il reprenait la même feuille de route que Kofi Annan. Oui. Vous pensez qu'il est téméraire, Xavier Guillou ?
Moi, je pense que sa difficulté, ça va être de faire admettre au Conseil national syrien et puis à toutes les composantes de l'armée de l'ASL, la nécessité de, pour monter un gouvernement de transition, la nécessité d'associer toutes les composantes de l'opposition syrienne, qui ne sont pas forcément des composantes qui sont entre les mains des frères musulmans ou des officines qataristes ou saoudiennes. Et je pense que la mission de Kofi Annan a buté là-dessus, dans le sens où l'Iran proposait, même la Russie aussi, notamment le ministre des Affaires étrangères russe, qui est quelqu'un quand même qui est sur le dossier depuis très longtemps, avait proposé d'associer, je dirais, les différentes parties prenantes, et le Conseil national syrien a refusé, et même, je dirais, que chaque fois qu'ils ont essayé de mettre en place au travers de cette troïka un certain nombre d'initiatives, c'est à ce moment-là que le Conseil national syrien a légitimé des opérations militaires de plus en plus brutales sur le terrain, avec ce qu'on a connu à Alep, à Homs, etc. Donc je crois que voilà, on est dans cette espèce de jeu qu'on connaît bien depuis 20 ans, sur toutes les crises qu'on a traversées, où progressivement on dénature le droit international, voire même le droit humanitaire international. On instrumentalise le devoir de protéger et puis après on se retrouve embarqué dans des jeux de coalition fermés. Et là on est allé beaucoup plus loin sur l'affaire libyenne qu'au Kosovo, puisqu'au Kosovo on a fait une intervention sur une... c'est ce que nous signalent à chaque fois les Russes, on a fait une intervention d'une coalition sur une province autonome d'un pays souverain, membre de l'ONU, etc. Enfin, bon. Donc on a quand même tordu le cou quand même à une grande partie du droit international. Là on est allé beaucoup plus loin, puisque comme l'a dit Alain Choué, non seulement on a commencé sur le devoir de protéger, on a fait une résolution pour ça, et après on est allé jusque à la légitimation de l'exécution d'un dirigeant d'un pays. Donc c'est là où il faut faire très attention, parce que quand on commence à faire ça et que on rentre dans des jeux très fermés de composition de gouvernement en n'associant pas toutes les parties prenantes des communautés d'un pays, on crée les germes d'une
future
guerre civile beaucoup plus grave, etc. On a connu ça avec le Liban. Le Liban a été un laboratoire, était peut-être le plus grand laboratoire de tout ce qu'on peut connaître depuis 30 ans, hein, aujourd'hui. Et donc, si on va dans cette voie-là, on aura la même chose sur la Syrie à moyen terme que ce qu'on a connu pendant 15-20 ans sur le Liban.
Et si la mission de Lakhdar Brahimi était tout autre, est-ce totalement irréaliste de penser à un calendrier secret en Syrie, d'après vous? Après tout, pourquoi pas? Il est tout à fait légitime de tenter de contourner le veto russo-chinois, non?
Écoutez, moi, en tant qu'ancien membre des services dits secrets, les calendriers secrets, j'y crois pas. Hein, les calendriers secrets deviennent publics au bout de 3 jours et on repart sur les mêmes bases. Il n'y a pas besoin de calendrier secret dans une affaire de ce genre. On parle de négociation entre parties, mais on dit oui, mais à condition qu'une des parties soit pas à la table. Évidemment, ça peut pas fonctionner. Il faut, si la communauté internationale veut faire quelque chose, elle peut pas faire comme elle a fait avec Kofi Annan, c'est-à-dire que le même jour, M. Barack Obama vote pour la mission de Kofi Annan, et le même jour, il signe une autorisation pour les services spéciaux américains d'aller former les rebelles à la frontière turque. Non, on ne peut pas dire « Allez donc négocier, cher monsieur, et pendant ce temps-là, moi, j'arme une des deux parties ». Là, c'est quand même la communauté internationale aussi de prendre ses responsabilités. Et si elle veut mandater M. Lakhdar Brahimi avec une fonction de négociation, de l'aider dans sa négociation et non pas de lui mettre des bâtons dans les roues.
Xavier Guillou.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je ne crois pas beaucoup aux agendas secrets. Hein. Je suis un peu comme... Surtout maintenant, avec Facebook et Twitter, c'est quasiment mis sur la place publique dans la journée. Quoi. Alors, je pense qu'on est sur une maïeutique très complexe, comme je l'ai dit, avec des rapports de force. Moi, je dis que la Syrie fait partie de ces quelques boîtes noires que l'on a sur le plan géopolitique au niveau international, où vous avez tellement de jeux d'acteurs, que la théorie du complot fonctionne pas, enfin, elle peut pas fonctionner. C'est des rapports de force qui sont permanents et ce sont des régions qui sont sous tension permanente. Donc dès que c'est un peu comme un plat de spaghettis, dès que vous tirez sur un fil, tout le plat bouge. Donc c'est très difficile d'avoir une approche très, je dirais, manichéenne pour prendre ce terme-là et qui est propre à cette région pour justifier l'action des uns et des autres. Non, ce que je pense, c'est que dans les jeux d'acteurs, on en a qui peuvent en effet verrouiller, bloquer parce qu'ils ont le poids pour ça. Enfin, c'est vrai que par exemple, les États-Unis avec leur surpuissance militaire peuvent en effet imposer un jeu. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Chine, dans ce jeu-là, même si elle est très discrète et ne dit rien, pèse dans les rapports de force. Maintenant, on a un certain nombre d'acteurs qui sont sur le plan local. Enfin, je l'ai rappelé tout à l'heure, Erdogan... pour la Turquie, vous prenez les leaders iraniens qui sont eux-mêmes en compétition à l'intérieur sur le plan politique. Et vous prenez Poutine sur la Russie, et vous prenez Netanyahou et son chef d'état-major, Barak, sur Israël, dont on n'a pas parlé. Mmh. Vous avez affaire à des leaders qui sont avec des castings qui n'ont rien à voir, si vous voulez, avec des représentants politiques de nos démocraties. Enfin, je veux dire, quand vous regardez tous ces leaders, ils sont très militarisés, ils sont très endoctrinés, ils ont des visions très offensives de leur futur, de leurs intérêts, voire de leur survivance.
Qui sont parfois contradictoires.
Avec, si vous voulez, le prix Nobel de la paix qui est M. Obama, ou voire avec nos représentants politiques en Europe. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est dans ces rapports de force entre jeux d'acteurs, quels sont ceux qui peuvent ou verrouiller installer une situation qui peut être plus ou moins durable sur la région, ou est-ce qu'on peut pas avoir des acteurs qui peuvent jouer des effets de surprise, hein. Regardez Poutine, par exemple, sur la Géorgie, hein, au moment des Jeux Olympiques. Il a surpris tout le monde, hein. Il est allé en Géorgie et il a joué son propre jeu. Rien n'interdit demain matin à Netanyahou et à Mahmoud Barak de jouer un jeu qui est un jeu plus personnel, malgré le fait que le Mossad ou la diplomatie israélienne disent que c'est pas le moment forcément d'aller sur l'Iran ou d'aller sur un jeu plus offensif sur la région. Rien ne leur interdit de mettre en œuvre autre chose. Ça s'est déjà produit dans l'histoire d'Israël. Donc c'est ça qu'il faut, à mon avis, il faut essayer d'observer et de comprendre, c'est quels sont les intérêts des uns et des autres dans ce contexte.
Et parfois, dans cette région, les intérêts se croisent et se contredisent. Alors, comment sortir de cette crise d'après, au regard de tout ce qui a été dit, on comprend que la recherche de solutions devra forcément intégrer spécifiquement dans la région, tout au moins, l'Iran et Israël. Comment en sortir concrètement, Alain Chouet?
Ah ben, si j'avais la solution, je prendrais la place de M. Ibrahimi. Non, moi j'ai pas de solution, mais plus le temps passe et plus les affrontements sont forts, plus on s'éloigne d'une solution possible et plus on va vers une guerre civile à la libanaise qui peut durer 10, 15 ou 20 ans. La première des choses, en tout cas, serait certainement de la part des élites occidentales, enfin des dirigeants occidentaux, de M. Fabius ou d'autres, de ne pas jeter les anathèmes sur tel ou tel camp, mais peut-être de chercher des solutions de compromis. Or, on n'est pas du tout là-dessus, on n'est pas du tout sur cette ligne de chercher des solutions de compromis. Et puisque nos alliés principaux dans cette affaire sont tout de même l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui sont les descendants, comme je disais tout à l'heure, du jurisconsulte musulman Ibn Taymiyyah qui a émis une fatwa de génocide contre les Alaouites, on pourrait peut-être leur demander, ne serait-ce que pour calmer un peu le jeu, de dire à leurs autorités religieuses, de dire que cette fatwa est maintenant obsolète, nulle et non avenue.
De lever la fatwa.
Voilà, ça calmerait peut-être, ça pourrait contribuer à calmer le jeu. Voilà, c'est le genre d'initiative qu'on pourrait prendre, or on en est très loin.
Xavier Guillou.
Oui, moi je pense qu'on n'est pas du tout sur la sortie de crise pour l'instant. Je pense qu'on est plutôt en train de rentrer dans une crise qui va s'aggraver. Et que, comme Alain Chouet, je le rejoins sur sa conclusion, c'est-à-dire qu'on s'éloigne des solutions aujourd'hui. Une chose est certaine, c'est qu'on est en train de s'installer dans une guerre civile à la libanaise, avec des conséquences sur les voisins proches hein, de la Syrie. Je parle par exemple pour le Liban, hein, qui c'est pas simple. Alors, les Libanais, aujourd'hui, tiennent pas trop mal leur situation, mais c'est sûr que, par exemple, le Hezbollah, et même, par exemple, le parti du général Aoun, qui est allié du Hezbollah, voit d'un mauvais œil, je veux dire, le départ, un départ
Serait
pas maîtrisé de Bachar al-Assad.
Et même dans une certaine mesure, Israël ne.
Israël, à mon avis, n'est pas.
Ne souhaite pas le départ de Bachar.
Tout à fait. Il vaut mieux avoir un adversaire qu'on connaît plutôt que des ennemis qu'on ne maîtrise pas. Et Israël, depuis l'affaire du printemps arabe et notamment de ce qui se passe au Caire, est quand même assez inquiet de la prolifération de tous ces mouvements salafistes sur ses frontières. Même si elle stigmatise la menace iranienne, Israël est obligé de faire attention, si vous voulez, avec toutes les formes de menaces qui peuvent avoir des conséquences, y compris même à l'intérieur d'Israël, et surtout à l'intérieur d'Israël, en Cisjordanie ou sur Gaza. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la Jordanie, dont on n'a pas parlé. La Jordanie, aujourd'hui, accueille beaucoup
les
de
réfugiés.
Faut jamais oublier que le roi de Jordanie, comme le roi du Maroc, du reste, qui est un alaouite, n'est pas le même alaouisme que le syrien, sont très fragiles. Hein. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, la Syrie tombait, compte tenu du côté emblématique que représentent Damas et cette zone sur le plan de l'histoire du monde arabo-musulman, les conséquences ne seraient pas négligeables sur ces monarchies, qui elles-mêmes sont contestées sur le plan tribal ou sur le plan, je dirais, de la relation avec les islamistes sur leur zone. Donc, je crois qu'il faut aller vers... De toute façon, on est au Levant et au Proche-Orient, et donc là-bas, tout n'est que compromis.
Hein.
Donc, ça ne peut fonctionner que comme ça. Et il faut surtout pas faire perdre la face des uns et des autres, et chacun à sa place, que ce soit les alaouites, les chiites, les sunnites, mais aussi les chrétiens d'Orient, dont on ne parle pas, et qui sont quand même parmi les... Comme les alaouites, du reste, sont parmi des élites, hein, ou les palestiniens, au niveau de ce proche Moyen-Orient. Et si on ne va pas vers une stratégie de compromis, on va vers des drames et des tragédies. Et donc là, il faut faire très attention, parce que quand on commence à déraper sur ces régions-là, c'est généralement très très violent. Et je pense que l'Occident, et je rejoins un petit peu Alain Chouet sur la problématique des anathèmes, je pense qu'il faut que l'Occident, nos chancelleries fassent attention, parce que derrière, on peut avoir très rapidement des blocages, dont les effets seraient assez sensibles sur la sécurité énergétique. Parce que si jamais les Iraniens ou les Turcs ou les Russes commencent à bouger un petit peu par rapport à leur propre logique d'intérêt, bon, on le sentira très très vite sur les gazoducs et les pipelines, hein, voire même sur la sortie du pétrole à Hormuz. Hein. Donc je crois qu'il faut être très prudent. C'est une région qui incite à beaucoup d'humilité et de prudence. Et je pense que la sortie de crise est plus dans le compromis, en jouant toutes les subtilités culturelles, civilisationnelles, qui font la spécificité de cette région-là.
De la spécificité du monde oriental. Voilà, ce sera le mot de la fin. C'est la fin de Géopolitique, le débat sur la situation en Syrie. Merci à nos invités, Xavier Guillou, expert en gestion des risques et pilotage des crises, spécialiste du Moyen et du Proche-Orient, auteur de nombreux articles sur la question, disponibles sur le site de DiploWeb ou sur son site personnel xavierguillou.com, et Alain Chouet, ancien chef de service du renseignement de la sécurité de la DGSE, auteur de nombreux ouvrages sur l'islam et le terrorisme. Ils étaient tous les deux au téléphone. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de RFI, www.rfi.fr. Merci à Jonathan Brady pour la réalisation et la technique. Demain, Géopolitique, le débat sera consacré au Ladakh Zanskar. Merci de votre fidélité et à demain.